Après avoir étudié donc ce que représente la connaissance sensible, nous allons prendre maintenant l'aspect d'affectivité, ce que j'avais commencé la dernière fois. J'ajoute par rapport à la dernière fois une petite réflexion critique. Donc on est à notre journée, quoi. Enfin, on continuera. Pourquoi Aristote ne traite-t-il pas dans son déanima de ce que représente tout ce domaine affectif? On doit se poser la question. C'est pas parce qu'Aristote ne le pose pas que nous ne le posons pas, parce qu'au contraire, je le pose. Mais nous devons nous poser la question, étant donné l'intelligence d'Aristote dans ce domaine, et étant donné le premier qui, dans son déanima, de fait, parle des différents degrés de vie. On a toujours posé une petite question. Pourquoi, au contraire, saint Thomas, en théologien au Moyen Âge, n'hésite pas d'introduire les passions dans son traité sur l'acte humain? On a une position très différente. C'est curieux, parce qu'aujourd'hui, on parle souvent des rapports entre Aristote et saint Thomas, et au fond, c'est ce côté-là qu'on ne voit pas. On l'a laissé, alors que ça ne donne pas grand-chose. Tandis que ce côté-là serait très intéressant de se poser la question. Dans la vraie vie, il y a quelque chose de particulier. Pourquoi Aristote, de fait, dans son déroulement, ne pose pas la question des passions? Il en parle, il ne faut pas dire qu'il ne connaît pas, hein. Il en parle dans sa rhétorique. Pour le rhéteur c'est très important, on va mettre avec les passions. Il s'agit de persuader les gens. On veut persuader les gens par les passions. En émouvant les passions, et là, vous persuadez. Vous faites applaudir, vous émouvant l'affectivité, n'est-ce pas? Tandis qu'on était dans un état d'irritation en faisant juste l'inverse. On comprend très bien qu'au point de vue proprement rhétorique. Puis alors ensuite, vous verrez les stoïciens de milieu. Alors, qu'est-ce que ça représente dans la pensée d'Aristote, l'affectivité? L'affectivité pour Aristote est au niveau sensible et au niveau spirituel. L'affectivité représente pour Aristote non pas le principe au sens rigoureux, et c'est pour ça que je crois que lui n'en parle pas. La structure du déanima au point de vue philosophique, philosophie scientifique, n'implique pas les passions. Évidemment, ça ferait hurler les gens d'aujourd'hui, ça, c'est sûr. Ça ferait hurler en disant quand même l'affectivité, le point de vue psychologique, moi je dis ça. Hein. Et je crois que c'est très fort de la part d'Aristote de faire ça. C'est qu'il étudie la structure de l'âme. La structure de l'âme s'étudie par le point de vue de la connaissance et des différents degrés de connaissance. Des différents degrés de vie. Vie végétative avec sa dynamité. Vie sensible, sa connaissance. Et la connaissance suffit pour situer exactement la vie sensible comparativement à la vie végétative. C'est qu'il y a un problème de connaissance. Et ce problème de connaissance donne donc à l'animal, au vivant, donne donc au vivant et à l'homme une indépendance à l'égard de son milieu qu'il n'a pas au niveau de la vie végétative. Il y a donc là à nouveau un problème suffisant du côté de la connaissance. Que représente l'affectivité? L'affectivité ne nous donne pas une nouvelle structure de vie. Jamais. L'affectivité est analogue à la connaissance, ce que l'un est par rapport à l'autre. Et c'est pour ça que la structure de la philosophie scientifique du déanima ainsi que de la philosophie première se fait par l'être et par la connaissance, il n'est pas par l'un et l'affectivité. C'est ce matin, venant au problème de l'âme, vous voyez que je me suis dit, il faut essayer de voir cela de cette manière-là, ça vous aide à comprendre. Et ça vous aide à comprendre, mais je vous ai posé la question, pourquoi de fait, et c'est vrai, c'est intéressant de se poser la question, pourquoi de fait, quand certainement Aristote est en face de l'un de Platon, ou en face du bien de Platon, il ne réagit pas de la même manière. À l'égard du bien, il relativise le bien par rapport à du côté de l'intelligibilité et du vital prima du côté de la causalité. De sorte qu'il faut. Tandis que lorsqu'il s'agit de l'un, le relativisme et ne donne pas un prima de l'un du côté de la participation. Ça, je crois pas qu'il faut y réfléchir, ça fait penser, hein, et ça vous aide à essayer de comprendre. Alors, est-ce que vous pouvez me dire ceci?
Deux philosophies,
la philosophie romaine, c'est quelque chose d'utile dans sa structure propre du côté de l'être, et utile dans sa structure propre du côté de la causalité. Alors, si je fais la comparaison de deux biens, si vous ne faisiez pas la comparaison de biens, mais je veux bien le faire, parce que si je veux toujours répondre, je fais la comparaison avec le bien. Je vais avoir, alors, je dirais, la philosophie du vivant est une vie rendue et de vraie connaissance. De reconnaissance par rapport à l'âme. Et du côté, psychologique, il y a un primat de l'affectivité qui vient de créer une vraie philosophie psychologique. Je dis non, il n'y a pas de philosophie psychologique. La psychologie étudie deux points de vue. Alors, on peut se demander est-ce qu'il y avait quelque chose à la valeur. La valeur de la philosophie analytique du côté de la philosophie du vivant, qui serait le primat du bien sensible, du bien, mettons du bien sensible ou du bien spirituel, on l'a vu non pas comme le point de vue causalité, mais le point de vue, si vous voulez, comme priorité, le point de vue du bien, l'affectivité. Alors, on avait une structure propre à l'affectivité. L'affectivité, comme telle, n'a pas de structure propre. C'est ça qui est très connu. C'est ça qui explique la psychologie pathologique. Elle a de la peine précisée, elle n'a pas de principe propre. Elle est relative à la connaissance. Et une psychologie qui ne remarque que le conditionnement affectif, il ne peut pas avoir des lois, c'est tout. Ne pas avoir plus. Il me semble que c'est plutôt là qu'on agit plus avec moi, parce que c'est plus net. Que du côté proprement philosophique, l'affectivité vient s'ajouter, vient compléter, achever, rayonner le point de vue de la connaissance et apporter quelque chose de nouveau. Je suis tout à fait d'accord, c'est quelque chose de nouveau. C'est analogiquement par rapport à moi, je ne sais pas, faisons pas le. Comprenez bien, par une divotture, analogiquement, c'est quelque chose qui est relatif parce que la forme, la structure est donnée par la connaissance. C'est la connaissance qui me donne toutes ces ouvertures et qui permet à l'affectivité de se développer. Mais il y a quelque chose de particulier qui montre bien que c'est analogique, c'est que je pense à une dynamis. Une dynamis, une faculté qui dépend de la connaissance. C'est pas elle qui la détermine, c'est parce que le bien détermine qu'on pourrait dire qu'il y a quelque chose à faire, vous voyez, du côté du bien, et un peu du côté de l'âme. C'est pour ça que, parce que c'est en réalité, c'est pas la forme intelligible qui détermine, c'est le bien qui détermine. Si c'est le bien qui détermine, c'est donc un bien avec le bien. Oui. Alors, c'est pour ça que c'est un statut, ce que je dis, hein, c'est faisant comprendre, ça nous aide à comprendre, mais c'est analogique. Hein. Alors, parce que c'est analogique, je ne peux pas, à partir de là, structurer. Ce que je peux dire, c'est que la philosophie du vivant est déterminée par la connaissance ou par les formes naturelles de la vie législative, mais que le point de vue propre de l'affectivité vient s'ajouter comme quelque chose de nouveau qui vient compléter les choses. C'est pour ça que j'ai le droit de l'intégrer dans la philosophie du vivant. J'ai parfaitement le droit de l'intégrer dans la philosophie du vivant. Ça fait partie de la philosophie du vivant. Il ne faut pas l'acheter. Mais ce n'est pas seulement la structure de la philosophie du vivant. Alors on peut voir très bien qu'un pionnier comme Aristote, qui va vite. C'est vrai, il va faire philosophie, on va très bien, il va faire philosophie première. Et il a fait ici la philosophie du vivant, surtout si la philosophie du vivant est un des derniers écrits. Alors il donne une nouvelle structure. Il reste, faites-le. Facile, on peut le faire. Hein? C'est vrai que c'est facile de faire, vous avez la structure des degrés de vie, vous pouvez facilement le faire. Donc, réfléchissez à cela. On va maintenant continuer la réflexion sur le point de vue de cette affectivité facile. Cette affectivité sensible qu'on appelle les passions. Alors, comprenons. D'une façon traditionnelle, on donne le concupiscible et le irascible. Il faudrait, en bonne philosophie, on va parler tout de suite du concupiscible et du irascible. Il faudrait donc ici, je dis bien ici faire une description de toutes les nations et de tous les états nationaux. Je vais le faire très rapidement. Je ne l'ai pas fait la dernière fois, je sens plus parce que j'ai écouté toutes les concubusées de racines. Je n'ai pas le droit philosophiquement. La tradition parle de concubusées de racines, mais je dois être attentif pour toute la philosophie, essayer de donner cet aspect destructif, et à partir de là, de préciser deux grandes argumentations de l'oppression. Bon, alors, on analyse que vous pouvez faire un petit examen que vous faites tous les soirs, n'est-ce pas, de vos états affectifs. Je suis joyeux, la joie. Je suis triste. J'ai un état affectif de tristesse qui m'accable. La tristesse peut produire même une certaine angoisse. Je suis audacieux. J'ai dit, mon état, c'est extraordinaire. Allons-y, allons, j'encourage les autres. Bon, c'est ça, va arriver. Puis au vrai, un moment de fuite, au fond, on va dire, tournons le dos. Un brochet méchant, attention. C'est on a la fuite. Avoir des épreuves, les amis. Quand on vient voir quelqu'un et qu'on a un peu de préhension, je viens à cœur, puis est-ce qu'on va taper, on va dire, non, je vais repartir. J'ai un repas, et on fait ça 10 fois avant de taper. C'est ça, j'avoue qu'il y a un mouvement affectif de fuite de zinzin. Un rocher méchant qui est là, attention. Alors, on a peur. La peur. La peur est une chose très caractéristique. Il y a donc l'audace, il y a des espérances. Et des désespoirs. Tout peut être affectif, hein. Tout peut être affectif, sensible que vous sentez en vous. Il y a des craintes. Peur, désespoir, crainte. Qu'est-ce que j'oublie?
La colère.
Puis la haine. Ça m'arrive, ça quand même. Hein? Puis l'amour. Ah, l'amour aussi. C'est l'amour affectif, l'amour passionnel. Puis la colère. Cherchez bien pour votre examen de conscience dans vos états affectifs.
La douceur.
La douceur, la douceur. Ah, la douceur, la douceur. Est-ce que la douceur, c'est une passion? Est-ce que c'est une passion, la douceur? La tendresse. Hein, la douceur. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore?
La jalousie.
La jalousie, la jalousie. Regarde ça. Farouche. C'est à côté de la haine. C'est une conséquence, satisfaction. C'est pas direct. C'est un manque, vous voyez. Il y a un manque. Le manque n'est pas une passion, c'est parce qu'il y a eu un grand désir et puis il y a un manque. Là, il y a une chute. une fuite de tension.
C'est des bonnes choses, c'est autre chose.
Bon, c'est déjà pas mal. Hein. Bon. Je crois qu'on est fait, c'est... Oui.
Sensibilité.
La sensibilité, c'est général. Hein. Tout ça, c'est la sensibilité. Une sensibilité affective. Sensibilité affective, oui, qui est particulière. Bon, je vois que toutes ces passions, donc, c'est, ils ont tous le caractère d'être sensibles. Alors, on est plus ou moins sensible, plus ou moins passionné, c'est évident. Bon. Alors, il y a le caractère sensible, il y a le caractère de quelque chose qui il y a une conscience de ces états, j'ai conscience de ces états, j'ai des sentiments, tout ça. Ça, c'est une question de sentiments, c'est bien évident. Et d'un sentiment affectif, qui peut être plus ou moins fort, qui peut prendre plus ou moins, mais chacun, d'une certaine manière, peut s'imposer comme une absolue. D'une certaine manière. Alors, qu'est-ce que je veux essayer de voir? C'est que parmi ces passions, parmi ces sentiments passionnels, hein, ces sentiments passionnels que je sens en moi, il y a certains qui appliquent une attirance. Je suis attiré vers un bien. Un bien sensible. Je suis attiré vers un bien sensible. Cette attirance vers le bien sensible. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre sous la collade attirance bien sensible? Je veux l'amour. Ça, c'est sûr. Je veux le désir. C'est évident. La tendresse et la douceur, à l'avenir, c'est amour. C'est l'amour qui est tendre. C'est l'amour qui est doux. Hein? Donc c'est à l'intérieur de cet amour, il y a une tendresse extraordinaire, une douceur merveilleuse. Puis il y a l'opposé de ce bien, le vin sensible. Alors je ne suis plus attiré par ce bien sensible, parce que là, c'est l'attirant, c'est l'attraction de ce bien sensible. Mais au contraire, ce vin me repousse. Je suis dans une attitude d'opposition. Alors c'est la haine, ça je suis. La haine. La fuite. Alors je pourrais dire ici la joie et la tristesse. Je crois que je peux dire ça. La joie et la tristesse, hein, les opposés. Je vois donc qu'il y a quelque chose en moi, je crois que des passions qui sont des passions qui me poussent vers un bien sensible qui m'attire. Et c'est à partir de là qu'on va voir vite concupiscible. On verra plus exactement, on n'a pas concupiscible, la concupiscence. L'aspect, si vous voulez, de l'appétit, l'appétit sensible, qui est attiré vers le bien sensible, qui exerce cette attraction de la concupiscible. Alors, qui est la conséquence de la bien sensible? Et ce concupiscible implique un amour, un désir, une joie, nous allons le redire. Comparativement à cela, il y a quelque chose de particulier. Il y a non seulement une audace, mais il y a aussi comme un désir de victoire dans une lutte. C'est un bien qui m'apparaît comme un bien que je dois conquérir. Le bien sensible n'est pas un bien que je conquiers, je me laisse prendre, je me laisse embrouiller. Hein? Le bien, je me laisse embrouiller, je me laisse attirer. En tout cas, c'est un bien ardu, difficile. Je sens très bien, quelquefois, je suis plus éveillé devant un bien difficile. J'ai besoin de ça pour lutter davantage. Alors, c'est la victoire à la maison. Alors là, je me dis qu'en effet, il y a en moi ce bien. Des audaces. Je ne suis jamais battu d'être un bien sensible, tout court. Je suis battu d'être un bien que je dois conquérir. C'est un bien que je dois conquérir. C'est tout à fait différent. Le bien que je dois conquérir implique toute cette audace. Je dis qu'un bien facile, vous avez une audace, vous dites, vous êtes audacieux, vous mangez ce chocolat, vous êtes audacieux. Oh, quelle audace, extraordinaire. Manger ce chocolat, non, pas du tout, c'est le concupiscible, tout simplement. J'aime bien le chocolat, c'est tout. Mais j'ai pas du tout l'impression d'être audacieux pour ça. Oui, je suis audacieux si je vis de la. Si je vis de plat. Alors, j'ai l'impression précieux, c'est moi là, mais c'est une audace qui n'est pas du tout une audace. C'est tout simplement parce que j'ai un bon bec, l'audace. Et vous avez du mal, c'est des gens qui m'attaquent. Alors j'en ai une crainte. Et puis il y a une masse ainsi qui s'appelle l'autre. Alors vous avez l'audace, la crainte, on va pouvoir effacer progressivement. Je vais avoir mon espérance et un désespoir. Si ça vous la cause des alors j'efface tous ceux qui sont présents. Hein. Puis je vais essayer de réfléchir sur les autres pour voir s'il faut me supprimer la colère, bon, la crainte très bien, la haine, le savoir, le désespoir, la douceur et la tendresse, l'espérance. Le désir, l'audace, la fuite, la joie, la tristesse, la peur. Tiens. Alors qu'est-ce qui reste la peur? La peur. Ah, la peur est à la crainte. J'ai peur du mon chien. Hein, vous avez raison, j'ai peur du mon chien. Est-ce que la peur est une crainte ou est-ce que c'est autre chose à la peur que la crainte? Ou est-ce que c'est au fond tout simplement là? Moi je crois que la peur, c'est affectivement, c'est une crainte que j'ai. C'est pas la fuite, c'est une crainte. Je ne crois pas qu'on va réfléchir en voyant la crainte. Parce qu'après, nous allons voir chacun en particulier. Ici, j'essaie de comprendre comment les différents états affectifs que je vois, je peux les ramener à deux grands aspects, un aspect d'attirance, un aspect de lutte et de victoire. Et ça, nous sentons assez bien. Autrement dit, je me laisse attirer par un bien sensible, je veux conquérir un bien difficile. Et vis-à-vis du bien, il y a toujours l'opposé de la mal, donc je comprends qu'il y a un mal immédiatement sensible qui m'est donné, et puis il y a un mal qui risque de victorieux. Alors vis-à-vis de ces deux, je comprends. Alors, la peur, mettons la peur, à côté, j'aime bien mettre la crainte, mais mettons la peur, la jalousie. Ah, la jalousie, on n'a pas vu. Est-ce que la jalousie est une passion ou est-ce que la jalousie est passionnelle, la jalousie, qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde le bien qu'un autre possède et que moi je ne possède pas. Je suis jaloux. L'envie et la jalousie. C'est vrai que c'est pas la même chose, d'être envieux, d'être jaloux. Hein? C'est très proche. Ce sont deux jumeaux qui battent toujours l'un avec l'autre. Hein? C'est très proche. On est jaloux vis-à-vis de celui qui possède quelque chose que moi n'aime pas, et que lui possède, et que je juge que je ferai beaucoup mieux de posséder que lui. Enfin, que je vois beaucoup. Je crois qu'il y a l'autre, et parce qu'il y a l'autre, il y a un élément intellectuel. La jalousie, mais, vous voyez, c'est très curieux, vous avez purement passion. Vraiment passion. La jalousie a plus qu'un élément plus intellectuel. Faut moucher pour être jaloux. Faut moucher. Quand vous ne mouchez pas, vous n'êtes pas jaloux. C'est parce que vous vous occupez, vous êtes curieux, vous avez votre voisin. C'est Cain qui jaloux la belle, c'est très bon ça. Et après la vie, on va dire que c'est l'autre. Donc ce n'est pas directement un état passionnel, il y a un état beaucoup plus spirituel. Y a-t-il une jalousie purement passionnelle? Je ne crois pas. Qu'est-ce que vous dites là? Personne. Je crois pas. Non, c'est vrai. C'est non. Non, c'est pas toi. Ça n'a pas l'importance. Parce que la main s'est affaissée. Alors, vous voyez, donc, laissons la jalousie, la main, je la prends. Je crois que je suis là en présence, je suis en présence simplement, en essayant de comprendre un peu, les deux grands courants affectifs qui sont en moi, le compulsif et l'irascible. Le compulsif qui me fait regarder un bien sensible immédiat, ou immédiat, on va préciser, et puis l'irascible qui regarde un bien difficile. Je fais à partir de ces divers états passionnels que je ressens en moi, je les regroupe et je dis qu'il y a bien dépendance. Et c'est bien, il y a une tendance jeunesse attirée et la tendance où je désire pour le victorieux. Bon, alors une fois qu'on a compris ça, vous allez maintenant essayer de formaliser rapidement, parce que je ne veux pas faire un cours sur les passions trop long. Ce serait très beau, ce serait très intéressant. Alors là, il faudrait prendre toute la littérature. Vous voyez, prendre du Bordac. Et maintenant, vous verriez ces choses-là admirablement décrites, de voir ça, les jalousies bourgeoises ou orientales, c'est quelque chose d'assez étonnant, et de comprendre ce que ça représente du Hamel, avec beaucoup plus de finesse. On verrait dans tous les romans, ce qu'on veut inventer, c'est le point de vue de l'amour, un amour qui ne peut pas aboutir, un amour malheureux, un amour, vous voyez, un amour chéri. La jalousie. Alors on va essayer de comprendre maintenant. Comment le concubicide, qu'est-ce que c'est ce concubicide qui est premièrement dans un but d'amour. La première passion, la passion la plus fondamentale, celle qui est le point de départ de tous les autres, la seule à qui toutes les autres ramènent, c'est la passion amour. D'une certaine manière, il n'y a qu'une passion amour. Et d'une autre façon, on peut dire que la bimodalité d'amour. Et c'est ça qui est intéressant à voir. Vous voyez, l'amour se rend, les diverses modalités du bien. Il y a toujours une bimodalité d'amour. C'est très curieux, ça. Parce que vous avez là, vous pouvez dire que chaque passion, c'est une modalité d'amour. Le plaisir, c'est une façon d'aimer. La joie, c'est une façon d'aimer. La haine, c'est une façon d'aimer. Pas très agréable, mais quand même. Quand vous avez quelqu'un qui a de la haine pour vous, vous êtes sûr parce qu'il vous aime. C'est déjà quelque chose. C'est dire ça. Autrement, il me serait complètement indifférent. Il peut se rendre sans admirer. L'indifférence, c'est la non-passion. Tandis que la haine, il m'a aimé, et puis ça n'a pas abouti. Ça s'est transformé en haine. Et la crainte et l'audace impliquent l'amour, les racines présupposent le concubicisme. Et il est comme quelque chose qui va s'ajouter au concubicisme. Donc je peux dire, et c'est ça que je crois important à voir, que les passions sont anarchiques. Et cependant, il y a quelque chose de commun dans toutes les passions, c'est la passion amour. La passion amour est présente dans toutes les passions. C'est la première et la dernière. Et toutes les autres notions sont telles d'une modalité d'amour. On va essayer de comprendre ça. Ça nous aiderait à mieux saisir ce que c'est que ce domaine proprement passionnel. Alors, qu'est-ce que c'est que la passion d'amour? Vous en avez tous expérience, hein?
Tous. Je crois.
J'espère. Alors vraiment, si vous n'avez pas expérience de la passion d'amour, ce serait triste. Ce serait très triste. Ça veut dire que vraiment, il vous manque une sensibilité. Mais alors l'insensibilité, c'est la chose la plus terrible qui soit. Alors on a une passion amour. Qu'est-ce que c'est cette passion amour? C'est d'être attiré vers un bien sensible. Pour nous connaturaliser à ce bien sensible. On se laisse influencer. On se laisse prendre. C'est ça la passion amour. On se laisse prendre. On se laisse saisir. Si on a le temps, on regarderait la manière dont saint Thomas, c'est une très bonne manière d'entrer dans saint Thomas pour comprendre que saint Thomas n'est pas un imbécile. Et dites ça toujours, quand vous avez affaire à des gens qui disent que saint Thomas est idiot, dites-lui, est-ce que vous avez regardé dans saint Thomas l'étude qu'il faisait sur l'amour passion? Ça, c'est tout à fait original pour saint Thomas. Et il est le premier à avoir fait. Il a fait cette étude de la passion amour. Et c'est extrêmement intéressant parce que là, on voit bien que Saint-Thomas n'est pas un cérébral. Là, on voit bien que Saint-Thomas avait des raisons, ce que c'était une bonne chose.
C'est sûr,
vous savez, on n'avait pas compris tout ça. Il savait très bien ce que c'était. Il avait appris un acteur sensible. Il savait très bien ce que représentait ce lien particulier qui existe entre l'homme qui se laisse prendre par le bien sensible. On se laisse prendre. C'est pour ça que c'est une passion. On se laisse influencer et on est comme naturalisé par ce bien sensible. On partit et on réagit. Dans toute passion, il y a à la fois une réceptivité et en même temps une réponse. On partit, on réagit. Alors celui qui vit cette passion sensible, il se laisse prendre par ce bien sensible, il se laisse transformer par ce bien sensible, et c'est pour ça que d'une certaine manière, il est comme liquéfié par ce bien sensible. C'est ce que dit saint Thomas. Il est liquéfié, c'est très très beau, parce que ça fait très bien comprendre comment la passion sensible, amour, nous désarme. On est complètement désarmé quand on commence à aimer passionnellement. C'est le grand truc, ça, pour supprimer les oppositions, vous voyez. Parce que dès que quelqu'un aime de façon passionnée, il est désarmé. Il est liquéfié. Il est liquéfié dans sa sensibilité, en lui-même. Il n'y a plus détermination, c'est ça que ça veut dire. Les déterminations, les déterminations qui sont justement les manières particulières de lutter, tout ça disparaît. La passion amour fait l'union avec le bien qu'on aime. Une union affective, pas une union réelle, une union affective. Et la passion amour va s'allier à l'imagination, c'est sûr. Toutes les passions s'allient à l'imagination pour pouvoir avoir un impact plus grand. C'est grâce à l'imaginaire. L'imaginaire fait que le bien sensible est plus présent par sa représentation. Et les représentations imaginatives jouent un rôle très important dans les passions. Les passions ne regardent pas le bien réel, le bien imaginatif. La passion amour, hein, c'est pas bien, c'est pas réaliste la passion. La passion n'est pas réaliste du tout. La passion est imaginative. Et c'est pour ça qu'elle m'entoure tellement, parce qu'elle est imaginative. Si la passion était réaliste, mais elle se terminerait au bien sensible, mais parce qu'elle est imaginative, elle a quelque chose d'infini. Je suis pris, je suis saisi, et c'est pour ça qu'elle peut liquéfier, c'est-à-dire me désarmer complètement. Et c'est pour ça qu'elle réalise une union affective avec le bien sensible que j'aime et auquel je suis pris, comme une espèce de présence de ce bien sensible. Ce bien sensible est présent à moi, et moi-même je suis présent à lui. Alors, il y a donc tout cela qui joue dans le point de vue de la passion amour. Et je crois que ce qui est très important, c'est de comprendre comment la passion demeure immanente, mais avec une tension. Les passions sont toujours dramatiques. Toujours. Parce qu'elles sont au-dedans de moi-même et elles vont me tendre. Tandis que l'amour spirituel n'est pas tragique, n'est pas dramatique. Il m'unit au bien. Il m'unit au bien, il me fait vivre de sa présence. Là, je vis de sa représentation affective, qui me saisit, qui me prend. Remarquez quand ordinairement pour nous, hein, comprenez-vous bien. Mais c'est très rare qu'on vit des passions à l'état pur. Hein. Très rare dans les rêves. C'est très rare, habituellement, quand même, on est un peu plus éveillé, on n'est pas une passion d'état pur, mais on les sent que ça nous asticote, hein, que ça nous pousse, que ça nous empêche d'être paisible, on est dans un état de fébrilité. La passion rend fébrile, elle rend fébrile parce qu'elle agit notre sensibilité, notre imagination, pour nous unir au bien sensible, d'une union affective. Il y a une union affective. Quand ce lien sensible ne me fascine pas, quand il est lointain, elle a vraiment le désir. et le désir sur l'amour à cette qualité particulière, c'est le désir, mais une tension, encore beaucoup plus grande que celle de l'amour. L'amour implique une tension, c'est sûr. Évidemment, dès qu'on aime, on n'est plus, dès qu'on aime passionnément, on n'est plus dans un état de repos. Il n'y a pas de repos dans les passions. C'est extraordinaire. Pour l'agitation. Mais alors, là, le plaisir, c'est l'agitation au sens très très fort. C'est ce qui est plus agité, le plaisir. C'est donc une agitation interne qui me fait tendre vers le bien sensible que je ne possède pas, qui est lointain. Ce bien sensible que j'aime. Il n'y a pas de désir sans amour. Vous voyez, quelle différence y a-t-il entre le désir et l'amour? C'est que le désir me porte vers un bien qui n'est pas pour moi. Un bien que je ne possède pas. Que je ne possède pas et qui n'est pas suffisamment représenté ou donné. Et quand je possède ce bien, c'est la jouissance. La joie ou la jouissance. Je me repose en lui. Alors vous allez me dire, voilà, vous retrouvez le point de vue proprement du monde réel. L'amour n'implique pas nécessairement l'union réaliste, sensible, elle peut être purement imaginaire. Mais quand il s'agit de la jouissance, je jouis d'une réalité sensible qui me demande d'être présente. La jouissance implique une présence. C'est sûr que la jouissance implique une présence, mais la jouissance n'est pas la présence physique. C'est une possession du bien affectif. C'est une possession de l'affectivité. C'est beaucoup plus la possession que la présence. Et l'amour spirituel, ce sera la présence. Et l'amour passionné, c'est la possession. Je possède ce bien, il est à moi, il m'est relatif. Je peux en jouir comme je veux. C'est ça que la réjouissance. Et c'est dans ça que je me repose. Alors oui, ce n'est pas une union réelle, c'est une union affective dans la possession. C'est ça le problème de la jouissance, c'est une union affective. C'est pour ça que je peux jouir même quand il n'y a pas de présence réelle. Et qu'il y a une présence affective, pas imaginaire. Il peut y avoir une jouissance, par exemple, l'imagination. Si l'imagination est suffisamment forte, il peut y avoir cette jouissance. L'imagination peut donner ça. Alors que dans l'amour spirituel, on voit toujours la distinction entre la présence réelle et la présence imaginative. Et la présence imaginative ne servira jamais de joie au niveau spirituel. Quand au niveau affectif, il peut y avoir cette espèce de chose très curieuse que l'imagination très très forte permet. L'union affectif sensible. Et là, il y a les jouissances, il y a un certain repos, une certaine délectation. Et cette délectation, c'est justement cette jouissance. Parallèlement au bien, il y a le mal. Alors, si le bien me dit, le mal me repousse. Alors, c'est là où il faut bien saisir ce que c'est que la haine. La haine passionnelle en elle-même est une chose bonne. Il faut haïr le mal. Il ne faut pas l'aimer. C'est sadique d'aimer le mal. Il faut haïr le mal. Et donc la haine passionnelle est bonne. Ce qui est mauvais, c'est de haïr une personne. Haïr le mal de la sensible, c'est bon. Si vous avez une bonne santé passionnelle, vous avez des haines. Passionnelles, ne les caressez pas trop. Ne les entretenez pas trop. Parce que ça peut être débordé. Et c'est très puissant la haine.